Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Voyage de découvertes aux terres australes par François Perron.
François Perron, naturaliste et explorateur français, embarque le 19 octobre 1800 au Havre pour une expédition scientifique vers les terres australes. Lors de ce voyage, il découvre les mers du Sud et navigue jusque dans l'océan Pacifique, travaillant sans relâche à collecter et observer le vivant. Sous des rapports non moins singuliers sans doute, l'océan avait encore fixé mes recherches. La phosphorescence de ses eaux, depuis Aristote et Pline, a été pour les voyageurs et pour les physiciens un égal objet d'intérêt et de méditation. Combien les phénomènes n'en sont-ils pas effectivement nombreux et variés ? Ici, la surface de l'océan étincelle et brille dans toute son étendue comme une étoffe d'argent électrisée dans l'ombre. Là, se déploient les vagues en nappes immenses de soufre et de bitume embrasés. Ailleurs, on dirait une mer de lait dont on n'aperçoit pas les extrémités. Tous les détails de ce grand phénomène ne sont pas moins dignes d'admiration que leur ensemble. Bernardin de Saint-Pierre a décrit avec enthousiasme ces étoiles brillantes qui semblent jaillir par milliers du fond des eaux et dont, ajoute-t-il avec raison, celles de nos feux d'artifice ne sont qu'une bien faible imitation. D'autres ont parlé de ces masses embrasées qui roulent sous les vagues comme autant d'énormes boulets rouges, et nous en avons vu, nous-mêmes, qui ne paraissaient pas avoir moins de 20 pieds de diamètre. Plusieurs marins ont observé des parallélogrammes incandescents, des cônes de lumière pirouettant sur eux-mêmes, des guirlandes éclatantes, des serpenteaux lumineux. Dans quelques lieux des mers, on voit souvent s'élancer, au-dessus de leur surface, des jets de feu étincelants. Ailleurs, on a vu comme des nuages de lumière et de phosphore errer sur les flots au milieu des ténèbres. Quelquefois, l'océan paraît comme décoré d'une immense écharpe de lumière mobile, onduleuse, dont les extrémités vont se rattacher aux bornes de l'horizon. Tous ces phénomènes, et beaucoup d'autres encore que je m'abstiens d'indiquer ici, quelque merveilleux qu'ils puissent paraître, n'en sont pas moins de la plus incontestable vérité. Ils ont été d'ailleurs plusieurs fois décrits par les voyageurs de la véracité la moins suspecte, et je les ai moi-même presque tous observés en différentes parties des mers. Pour l'explication de ces espèces de prodiges, combien de théories n'ont pas été successivement émises ? Tantôt, l'esprit prétendu du sel, le bitume, le pétrole, les huiles animales ont été présentés comme les éléments de ces phénomènes variés. Tantôt, le frais de poisson, celui des mollusques, les débris des animaux marins ont paru susceptibles de fournir à leur explication. Le mucus gélatineux qui transsude continuellement des poissons, des ophites, des mollusques, n'a pas été étranger à ces brillants effets. Quelques physiciens ont admis une espèce de mouvement de putréfaction dans les couches superficielles de l'océan. Plusieurs ont appelé la lumière à leur secours. Et tandis que les uns la faisaient agir comme combinée, d'autres la considéraient comme exclusivement réfléchie. L'électricité ne pouvait manquer de jouer un grand rôle dans cette partie de l'histoire de la mer, et plusieurs hommes célèbres ont effectivement eu recours à cet agent. Plus récemment encore, le phosphore et ses combinaisons diverses ont ouvert une nouvelle carrière aux hypothèses. Quelques-uns l'ont supposé dans ces phénomènes à l'état libre, d'autres l'ont voulu combiner avec l'hydrogène. En un mot, il n'est aucune sorte d'explication, vraisemblable ou même absurde, qui n'ait été fournie jusqu'à ce jour sur cet objet. Et cependant, l'opinion des physiciens rigoureux flotte encore incertaine sur la cause réelle de ce grand phénomène de la nature. Dans la partie physique et météorologique de mes travaux, j'aurai plus particulièrement occasion de discuter chacune de ces théories diverses. Et je démontrerai, j'espère aisément, combien, une seule exceptée, toutes les autres sont loin de pouvoir satisfaire à toutes les données du problème. J'exposerai seulement ici quelques-uns des résultats de mes expériences et de mes longues recherches à cet égard. 1. La phosphorescence appartient essentiellement à toutes les mers. On l'observe également au milieu des flots de l'Équateur, dans les mers de la Norvège, de la Sibérie et dans celles du pôle Antarctique. 2. Toute chose égale d'ailleurs, la phosphorescence est en général plus forte et plus constante entre les tropiques ou près des tropiques que sous des latitudes plus rapprochées des pôles. 3. La température habituellement plus élevée des mers équinoxiales paraît être la cause médiate de cette différence. 4. Toute chose égale d'ailleurs, la phosphorescence est plus grande et plus constante le long des côtes, dans les mers resserrées et dans les détroits, qu'au milieu des mers très vastes et loin des terres. 5. En général, ce phénomène est d'autant plus sensible que la mer est plus fortement agitée et que l'obscurité de la nuit est plus profonde. 6. On peut cependant l'observer aussi par les temps les plus calmes, et le plus beau clair de lune ne suffit pas toujours pour l'éclipser. 7. Tous les phénomènes de la phosphorescence des eaux de la mer, quelque multipliés, quelque singuliers qu'ils puissent être, peuvent cependant être rapportés tous à un principe unique, la phosphorescence propre aux animaux marins et plus particulièrement aux mollusques et aux zoophytes mous. Mes nombreuses observations et la belle suite de peintures d'animaux phosphoriques exécutées par M. Le Sueur me permettront, j'espère, de mettre cette grande vérité à l'abri de tout doute légitime. 8. Cette phosphorescence active des animaux, bien différente sous tous les rapports de cette faible lueur que peut développer, dans certains cas, la décomposition putride, est tellement dépendante de l'organisation et de la vie qu'elle s'exalte, s'affaiblit et s'éteint avec elle, pour ne plus se reproduire après la mort.
Extrait du livre « Voyage de découverte aux terres australes », exécuté par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sur les corvettes Le Géographe, Le Naturaliste et la goélette Le Casuarina pendant les années 1800 à 1804 par M. François Perron. Publié par décret impérial en 1807 par l'imprimerie impériale à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source Biodiversity Heritage Library. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «